Te remercions pour ces louanges qui sont montées vers toi, qui nous font du bien. Et je te remercie aussi pour cet argent qui a été récolté, qu'il soit servi à ta gloire. Et je te remets maintenant le moment de parole, d'écoute que nous aurons, que tu nous parles, que tu nous travailles, que tu nous interpelles, Seigneur, car ta parole est vivante. Amen.
Je vous salue dans le nom du Seigneur, les uns et les autres. Je vois que la décoration pour l'ascension est en place, du bleu. Rien ne nous obligeait, le bleu. Ah, ma cravate. Alors, quelque chose voile la croix comme pour la décorer. La croix, c'est un abominable symbole de mise à mort. Curieux symbole pour une église qui célèbre la vie. Un voile qui va plus haut que la croix. On sent qu'il y a une montée. J'ai mis comme titre à notre méditation d'aujourd'hui, et j'espère que chacun de nous recevra une chose qu'il chérira pour sa vie. C'est pas grand-chose, une chose. Son ascension, l'ascension du Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'on en fait ? Très souvent, on saute de la croix à Pâques, à la Pentecôte, mais il y a ce truc intermédiaire, cette sorte d'élévation, cette sorte de porte des étoiles, pardon, où il s'en va dans une autre dimension. L'ascension du Seigneur, un ciel dégagé. Nous allons réfléchir à la portée de l'ascension pour nos vies, dégagée pour lui, mais pas encore tout à fait pour nous. Un ciel dégagé pour lui, mais pas encore tout à fait pour nous. La fin de l'évangile selon Luc est très courte. Elle est presque comme escamotée. On sait que Luc va continuer sa narration avec le livre des Actes des Apôtres, qui parle de ce qui s'est passé pendant les 40 jours qui séparent la résurrection de la Pentecôte. Ici, c'est beaucoup plus court. Regardez, la fin de l'évangile selon Luc, chapitre 24, verset 50, etc. « Et moi, Jésus, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. » On sait déjà ce qu'il va faire, il va envoyer quelque chose qui est promis par le Père. « Pour vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez d'en haut revêtus de puissance. » Nous allons beaucoup parler de puissance pendant le culte de ce matin. Nous avons déjà beaucoup parlé de puissance. « Au-dessus, nous l'avons chanté. » des puissances. Puis, il amena les disciples jusque vers Béthanie et, levant les mains, le Seigneur Jésus les bénit. Or, comme il les bénissait, il se sépara d'eux et il fut emporté au ciel. C'est une drôle d'expression. Déjà, ciel, c'est drôle. Et emporté, on ne sait pas trop ce que c'est. Nous avons les lois de la gravité. À part les portes des étoiles, eux, après s'être prosternés devant lui, retournèrent à Jérusalem pleins de joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Le temple de Jérusalem, il n'y en avait qu'un. Ce n'était pas les temples de Lausanne, hein. C'était le temple de Jérusalem. Ils attendaient la promesse du Père comme une conséquence de ce qu'on appelle l'ascension. Nous y réfléchissons encore. C'est bon de nous laisser pénétrer par cette narration. Nous avons beaucoup parlé du Jésus terrestre, de ce qu'il a fait, dit, de ce qu'il a vécu, du don de sa vie. Et nous parlons maintenant d'une dimension de la foi chrétienne qui n'est compréhensible que pour ceux qui croient en la résurrection de Jésus. Sinon, c'est parfaitement incompréhensible. Je saute maintenant d'un évangile à quelque chose qui a été écrit avant les évangiles et qui sont des épîtres, les lettres. Et nous allons écouter Paul en la matière. Quelle immense puissance, il est question du Seigneur, de Dieu. Il a déployé en notre faveur à nous les croyants. Je vous l'ai dit, c'est compréhensible que pour ceux qui aiment Jésus, selon les évangiles. Son énergie, sa force toute puissante, il les a mises en œuvre dans le Christ, lorsqu'il l'a ressuscité des morts et fait asseoir à sa droite. La droite, c'est pour les droitiers le lieu où on peut frapper. Hein ? C'est le lieu de la puissance. Asseoir, c'est le siège d'intronisation. C'est un lieu de puissance. C'est aussi le lieu où il y a un souverain. Il l'a fait asseoir à sa droite. Et pour comprendre ce que c'est qu'asseoir à sa droite, il faut connaître les psaumes. Psaume 110, etc. Il faut le connaître. Il a mis ses ennemis à ses pieds. Il l'a fait asseoir et il a mis ses ennemis à ses pieds. On continue. Il l'a fait asseoir à sa droite et on revient à cette notion de ciel, cette autre dimension où Dieu est roi. Je ne peux même pas vous dire c'est au coin à droite, à côté de Neptune. Le ciel est une dimension de la souveraineté de Dieu. C'est simplement une autre dimension. Ce n'est pas l'opposé à la terre, puisqu'on prie même que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et je vis des cieux descendre une cité de Dieu, pour reprendre une image de l'Apocalypse. Bien au-dessus, et maintenant ça va nous intéresser encore, le ciel, c'est bien au-dessus de toute autorité, pouvoir, puissance, souveraineté. Vous avez vu, il y a des majuscules, mais en grec, il n'y a que des majuscules. Donc, c'est une interprétation. En tous les cas, c'est costaud. Hein. Ça régit. Et ce n'est pas que invisible. Ça a un impact sur la terre. Il est même dit, dans le Nouveau Testament, que si elles avaient su les autorités, elles n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. D'accord ? C'est quelque chose qui a un impact. On en parlera encore. Qu'est-ce qui a de l'impact dans nos vies ? Qu'est-ce qui me mène par le bout du nez plus que je crois ? C'est ça, les autorités. Ça a quelque chose qui a un impact. Alors, dans les cieux, bien au-dessus, et c'est ça qui est important là, dans l'ascension, c'est le bien au-dessus. Il y a quelqu'un qui est détrôné et quelqu'un qui est intronisé dans l'ascension. Détrôné, les autorités et les pouvoirs, les puissances, les souverainetés. Et alors, pour qu'on n'épuise absolument rien, l'apôtre Paul est dit « Et tout autre nom qui puisse être nommé... » Alors, vous pouvez y aller. Hein. « Tout autre nom qui puisse être nommé et qu'on n'ose des fois même pas nommer tellement, c'est pernicieux, c'est manipulatoire, c'est là, ça régit. On sait que c'est pas bon, mais on s'écrase, on dit rien. Tout autre nom... » qui puisse être nommé du temps de l'apôtre Paul, ce n'était pas encore l'empereur qui se divinisait lui-même. Plus tard, ça le sera, du temps de Jean le visionnaire de l'Apocalypse. De tout autre nom qui puisse être nommé, non seulement dans ce monde, mais encore dans le monde à venir. Oui, il a tout mis sous ses pieds, à Jésus, psaume 8, verset 7, et il l'a donné. Au sommet de tout, je ne sais pas si vous avez ça comme vision d'Église, Jésus au sommet de tout, ce qu'on puisse désirer et aimer. Et il a donné comme sommet de tout pour tête à l'Église, pour tête à l'Église, qui est son corps. C'est vous l'Église ? C'est moi ? C'est nous l'Église ? Aussi, parmi beaucoup de gens rachetés de la surface de la terre, il a donné Jésus comme tête à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui que Dieu remplit tout en tous. Un jour, j'étais dans le midi de la France et faisais des camps de jeunes. Nous étions au bord d'une de ces rivières et il fait bon se rafraîchir en été dans les rivières. Il y avait là des jeunes adultes et je me souviens qu'on s'éparpillait au bord d'une rivière qui était assez profonde dans certains lieux. Et il y avait là une jeune dame qui ne savait pas nager mais qui voulait se rafraîchir. Alors on était tous à l'eau, on jouait comme des fous, parce qu'il fait bon de jouer comme des fous. Et on s'éparpille, certains vont en aval, certains en amont, et puis cette jeune dame qui ne savait pas, elle se met sur un rocher et dit « Oh, j'ai de l'eau jusqu'à là ». Elle ne savait pas que le pas après, c'était de l'eau jusqu'à là. Vous allez me dire « Mais quelle est la relation avec ce texte ?» Eh bien, voyez-vous, je regardais de loin, je surveillais mon troupeau, c'est une déformation professionnelle, et cette jeune femme qui était là à gauche, elle commence à rire. Et elle riait, elle riait. Elle riait. Et quand elle avait de l'eau là, elle riait encore. Et quand on rit, on ôte tout l'air. Hein. Et elle était dans l'eau. J'étais la seule à la voir. Il n'y avait personne autour. Et on ne voyait plus rien. Dernier signe, elle riait. Je ne sais pas si c'était la panique, la peur, ou vraiment l'humour. Je crois plutôt que c'était sa manière d'exprimer la peur. J'aime l'eau, il faut que vous sachiez, pas seulement pour les baptêmes. Hein. J'aime vraiment l'eau, j'aime nager, j'aime me débattre, j'aime faire des jeux d'eau. Je me souviens juste que j'ai plongé rapidement, le plus rapidement que je pouvais. J'ai mis ma main dans l'eau et j'ai trouvé ses cheveux. Et je me souviens que la seule chose que j'ai faite, vous allez me dire, c'est peut-être un peu cruel, mais c'est pas grave. Ce qui était grave, c'est ce qui se serait passé si je n'avais pas trouvé sa tête. L'eau était trouble. J'ai réussi à sortir sa tête de l'eau. Jésus est la tête qui est hors de l'eau. J'étais heureux de sauver une vie. Et je me suis dit, merci papa, merci maman, ça valait la peine que je vive. Jésus a sa tête hors de l'eau. Il est au-dessus des pouvoirs d'asservissement. Les choses qui régissent ce monde. Il l'a donné pour tête de l'Église qui est son corps. Nous, le corps, sommes encore peut-être dans ces éléments où le mal, la mort, les puissances de séduction sont à l'œuvre, certainement. Je ne sais pas quel nom vous auriez donné à des puissances qui sont actives et agissantes dans vos propres vies. Ces noms seront certainement divers. Mais le Seigneur, dans l'Ascension, nous dit « Je suis au-dessus des autorités, des pouvoirs. » Avant, ils étaient là, en train de régir nos propres vies. Aujourd'hui, dans la foi, je vous invite à considérer qu'au-dessus de ce qui me hante, de ce qui me blesse, de ce qui me régit encore, il y a le Seigneur qui fait du ménage. Il y a là une représentation graphique, cosmique, de ce qui peut être imaginé. Jésus est monté auprès du Père, il est vainqueur sur les puissances. Il y a là la difficulté du langage, je le conçois bien. Qui parle encore comme ça aujourd'hui ? Dans les films, oui. Il y a une diversité de représentations spatiales de ce qui est en jeu. On pourrait se moquer de ça en disant « Qui déjà a vu un homme monter au ciel ?» Et d'ailleurs, le ciel, qu'est-ce que c'est ? Sinon un lieu de pouvoir du Seigneur, un lieu de pouvoir absolu du Seigneur. Ici, pourtant, ce n'est pas une spiritualité de parc d'attractions comme pour en mettre plein les yeux pour que ça ne touche pas nos vies. Bien au contraire, dans l'Écriture, croire en l'Ascension, c'est dire ce qui se passe dans l'espace, mais aussi sur la terre, c'est nommer les choses. J'aime la foi parce qu'elle nous rejoint dans notre vécu concret. La foi n'est pas une spiritualité de parc d'attractions. Vous savez, ce truc-là, hier, avec Elisabeth, nous sommes passés dans le parc d'attractions en bas, près de... Voilà. Je vois que je ne suis pas le seul. On n'a pas consommé, mais on a vu beaucoup de gens qui se donnent un temps de plaisir vraiment faisant fi de tout le reste de la vie. On se donne du plaisir. Ce n'est pas la même chose. Ici, l'ascension, c'est quelque chose qui rejoint nos vies là où elles en sont. Depuis la résurrection de Jésus-Christ, quelque chose des prémices de la vie nouvelle a commencé et le grand ménage a commencé. Il y a des êtres, je ne sais pas s'ils sont comme ça, je suis content que c'est assez flou, qui sont détrônés. Avant, ils régnaient en maître. Le fait que Jésus ait vaincu la puissance de la mort fait que ces êtres-là, qui régissaient les foules et mon cœur également, eh bien, sont détrônés et quelqu'un d'autre est mis au-dessus. Elles sont de nouveau à leur juste place. Pour certains, le but ultime de la vie, c'est le plaisir personnel. Pour d'autres, le but ultime de la vie, c'est la sécurité maximale sous un magot d'argent. Pour d'autres encore, c'est d'être vu des hommes. Pour d'autres encore, c'est simplement le sexe, par exemple. Ici, le sexe a mis à sa juste place. Il est détrôné. Il est bien, mais il n'est pas l'absolu. L'argent est bien, mais il n'est pas l'absolu. La réputation, c'est bien, mais ce n'est pas l'absolu. Le Seigneur donne leur juste place à ce qui régissait avant. C'est ça, l'ascension. Le Créateur rentre chez lui, dans la souveraineté. Ça veut dire qu'il va être physiquement absent. À un moment donné, le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, « Il est avantageux pour vous que je m'en aille. » Pourquoi ? Parce que maintenant, dans ce petit coin qu'est le quartier de Villard, pour cette église ici, comme pour l'église de Tombouctou ou l'église de Ho Chi Minh Ville, c'est valable. Le Seigneur Jésus envoie son esprit. Quel avantage il y a pour nous d'avoir son esprit ? Son esprit, ce n'est pas n'importe quel esprit. Ce n'est pas l'esprit d'un parc d'attractions, c'est l'esprit d'une création guérie. C'est ça, la Pentecôte. C'est ça qui va avoir lieu. C'est pour ça qu'il est au-dessus des pouvoirs qui régissent nos vies. Mes amis, quelle puissance de guérison dans cette perspective. La gloire, il la retrouve avant que le monde fût, il retrouve cette gloire. Il est le prototype du cœur même de Dieu. Et il pose la question, dans le livre des Actes, on retrouve ceci, « Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Il reviendra. » C'est ça, on pourrait simplement dire, « Seigneur Jésus, je te regarde au ciel, mais il nous dit, je vous envoie mon esprit. » Et grosso modo, il nous dit, « À vous de jouer, à vous de continuer, corps du Christ. Je vais être agissant au travers de vous et de vos situations diverses, quelles que soient les portées encore réelles et palpables des autorités, des puissances, des dominations. » Nous allons en parler tout à l'heure avec une affiche un peu surprenante. Vous ne le savez peut-être pas, j'ai traduit du début de la Réformation. Jean Calvin était encore à Paris au moment du début de la Réformation. Jean Calvin est deuxième génération des réformateurs. Une première génération des réformateurs vivait également des églises comme celle-ci. Seulement, c'était un temps assez totalitaire. Il fallait penser comme le voulait l'autorité en matière religieuse, civile, etc. Je vais vous montrer une affiche qui est surprenante et qui montre quelque chose de la réalité de nos vies à nous également. C'est une affiche du début de la Réformation et vous allez voir qu'il remet Dieu et Jésus et l'ascension à sa juste place. Le ciel était dégagé, vide pour Jésus, tout était à ses pieds, y compris les pouvoirs religieux du judaïsme ou de Rome, ou de l'amour de Mammon, ou de l'adoration des idoles, tout était à ses pieds. Il fait le grand ménage, et il va nous aider, à nous aussi, à comprendre comment dans nos corps, dans le corps du Christ, quelque chose de cette création guérie peut apparaître à cause du statut de gloire qu'a le Seigneur Jésus. Voici là, c'est pour ça que j'ai éteint, pour que vous voyiez un petit peu. Je l'ai fait reproduire dans ces documents que j'ai traduits en français de la région zurichoise et alsacienne du début de la Réformation radicale. La naissance d'églises de professants au XVIe siècle. J'en ai quelques exemplaires pour ceux qui voudraient la méditer de plus près. Alors, ceci, c'est mystérieux. Nous n'avons pas l'habitude. C'était un temps où les gens ne savaient pas encore, dans leur majorité, lire. On y revient peut-être, mais en ce temps-là, on ne savait pas. Voici une affiche. La première chose que l'on voit, c'est... que c'est une couronne, que c'est quelque chose de circulaire, et qu'il y a pour la première fois imprimé dans la Réformation, pas la tête d'un vieux grand-père qui ressemble à Dieu, mais le tétragramme sacré. Ce que vous avez ici est au cœur YHWH, Yahweh, celui qui est le Seigneur. Et puis, on voit ensuite, ce qui frappe ici, c'est cette couronne. Et où il y a marqué quatre lettres, il n'y a que des quatre lettres là-dedans, C-R-U-X, qui signifie croix. Ce qui est curieux, c'est que c'est une couronne de laurier où il y a marqué croix dedans. Non ? Il faut choisir, hein ? Ou bien c'est la victoire ou c'est la croix. On met en général pas ces deux choses ensemble, n'est-ce pas ? Pourtant, pour Jésus, oui, sa victoire, c'est la croix. Parce que ce faisant, il a révélé le péché, de la méchanceté qu'on lui inflige, mais également il a aimé jusqu'au bout. On voit ici une couronne de victoire. D'ailleurs, ça vous rappelle quelque chose, couronne ? Couronne et Nouveau Testament, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. Au vainqueur, je donnerai, nous dit l'Apocalypse. D'accord ? On retrouve ce thème. Maintenant, j'aimerais vous rendre attentif à d'autres choses. Ici, il y a une porte. Vous voyez la porte ? Pour rentrer là-dedans, on voit qu'il y a une porte et la tête de quelqu'un qui est crucifié et qui regarde cette personne agenouillée. Vous voyez ça ? Oui, on ne voit pas bien. Hein ? Ça va derrière ? Pas bien. Prochaine fois, il faut s'asseoir devant. Je continue, parce que ce n'est pas le but seulement de s'occuper de documents du XVIe siècle. Hein ? 1529, c'est marqué là. L'homme qui a fait cette gravure, il était en péril de mort à l'époque. Je vous dis pourquoi. Peut-être à cause de ces petites choses qui sont là, on y reviendra également, mais aussi à cause de ces petites choses qui sont là. Qu'est-ce qui se passe en 1529 ? On construit Saint-Ange à Rome. On voit également un prédicateur, vous le voyez ? Là en bas à droite. On voit également quelque chose de bizarre dans une forêt. On voit également des gens avec un chemin qui est là, avec des épées. Vous les voyez ? Vous avez vos épées, là ? En ce temps-là, si vous étiez quelqu'un d'affranchi et de noble, vous aviez une épée. Donc, la prédication, le baptême, mais en même temps, une porte. Nous allons continuer. Maintenant, c'est en bas. Est-ce que ça va mieux derrière ? Bon. Me doutais bien. Le sacrement du baptême, c'est Jean-Baptiste et c'est Jésus. La prédication de la parole de Dieu, c'est une révolution pour l'Église. La parole de Dieu est prêchée. Et pourtant, on n'est pas encore dans ce cercle de la couronne où il y a marqué la croix. Il faut que quelque chose se passe ici pour entrer dans ce début de couronne. Où on voit des pierres, vous voyez des pierres ? Où on voit quelqu'un qui est agenouillé et quelqu'un qui lance une pierre, vous voyez ? C'est qui ? Étienne, dans le livre des Actes des Apôtres. C'est le début d'une histoire du peuple de Dieu où il se passe malheureusement pas que des succès, pas que du plaisir, mais aussi des oppositions à un moment donné à des pouvoirs en place et qui sont persécuteurs. D'accord ? J'aimerais vous rendre attentif que ce qui est bizarre ici, c'est qu'il y a une forêt et qu'il y a une foule ici. Vous voyez les têtes ? Non, peut-être pas bien. Il y a une forêt. Et en 1529, les bibliens, les amoureux de la Bible, pour la réformation de l'Église, il n'y avait pas encore luthériens, réformés, anglicans, etc. Il n'y avait pas encore l'ère du dénominationalisme. Tout le monde aspirait à un renouveau de cette Église en ce temps-là. Les gens hésitent. Il y a même le sultan, l'empereur et le pape. Vous regardez une certaine fontaine de Lausanne, vous allez retrouver ces gens-là. C'était les puissants de l'époque, non ? Aujourd'hui, c'est qui les puissants ? Est-ce qu'on a le droit de faire de la politique ? C'est ça la question. C'est qui les puissants ? Oui, les multinationales, hein ? Les banques, non ? Pardon ? Si ? Si ? Des Chinois, je mettrais encore des Américains. La banque et d'autres choses. Oui ? On les aurait mis là si on devait faire l'affiche. Maintenant, je continue. Il y a des gens qui vont vers ce chemin-là, qui rebâtissent quelque chose à Rome, une sorte de religiosité, où on peut y aller avec des épées. Et puis ensuite, il y a ce chemin-là, où on ne va pas avec des épées, mais où il y a quelque chose qui est déterminant en rapport avec la parole de Dieu et avec le baptême. Ici, j'aimerais que vous sachiez qu'à côté de Strasbourg, où a été publiée cette affiche, chez Beck, l'imprimeur, l'actualité, c'est que des chrétiens se réunissaient dans les forêts et aimaient la Bible. Il faut juste que vous sachiez. Maintenant, on va continuer. J'aimerais vous rendre attentif à quelque chose d'important. L'ascension du Seigneur Jésus. Regardez, vous voyez cette main ? Le prince de la puissance de l'air, ça vous dit quelque chose ? Il faut connaître le Nouveau Testament. Ce sont des puissances révoltées. Le prince de la puissance de l'air. Vous voyez, nous, quand on dit l'air, on dit « Ah, super, c'est à peu près quelques kilomètres au-dessus du sol, et puis ça fait du bien. » Mais à l'époque, l'air était justement ces lieux où il y avait les principautés, les puissances. Et c'est même là que le Seigneur, quand il viendra, nous donnera rendez-vous pour revenir sur la terre, mais il nous donne rendez-vous dans la niche même du diable. Nous, on n'a pas l'habitude de ces représentations spatiales du mal, n'est-ce pas ? Nous, on n'a pas l'habitude du tout. Ça ne fait rien. C'est pour ça que la parole de Dieu est aussi là pour nous enseigner et nous rejoindre dans nos conceptions. Ici, il y a une main... Gauche ou droite ? Droite. Et ici, une main, gauche ou droite ? Non ? Non ? Non ? Droite. Regardez le pouce. C'est donc pas les mêmes personnes. Il y a quelqu'un qui tient depuis l'air ceci pour les sceptres qui sont là en mouvement. Les sceptres de conformisme. Les sceptres qui régissent la vie, qui nous manipulent. Et qui nous font avancer vers un but, on ne se rend même pas compte à quel point ils nous influencent. La peur de la mort, la volonté de sécurité au fond de nous, la peur de paraître, nos compensations diverses, nos sécurités sont ici représentées par un pouvoir qui est à la fois religieux, judiciaire et royal. Vous vous souvenez les trois qui réfléchissaient en bas ? C'était le pape, c'était l'empereur et c'était le sultan. En ce temps-là, le sultan était une menace parce que les Turcs étaient presque à la porte de Vienne pour la conquête. On oublie, hein ? Ça fait rien. On n'est pas là pour de l'histoire seulement. Ce que j'aimerais vous rendre attentif, c'est cette réalité qui se trouve là. Non seulement ici, il n'y a pas marqué moi et mon plaisir, au cœur de la vie, il n'y a pas marqué moi et mon plaisir. Mon plaisir, Dieu va en prendre soin. Ma sécurité, Dieu va en prendre soin. Il sait le faire, c'est lui qui l'a créé. Mais au cœur de notre vie, il n'y a pas moi et mon plaisir. Sinon, on fait véritablement un culte qui est factice, qui est loin de la réalité. Au cœur, il y a la présence de Dieu, qui à la fois est un, qui à la fois est amour, qui à la fois est le Seigneur, c'est le nom de Dieu ici révélé, et le nom Dieu. Il y a ici une histoire qui se continue, je reviens ici. Le prince de la puissance de l'air qui tire les ficelles, qui régisse le monde, qui fait courir les Vaudois. Enfin, je dis les Vaudois, c'est parce que là on habite. Hein. Plus qu'on l'imagine. Si ce n'est pas le Christ, qui c'est qui fait avancer les choses? Et on voit également que de cette autre main, il y a un globe qui symbolise le monde et le pouvoir. Et là-dessus, il y a une autre main qui est une main droite. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Qui c'est qui a dit ça? Le Christ. L'ascension, c'est la foi en cela. Oui, les puissances de la mort sont encore actives. Oui, le dernier ennemi, c'est la mort. Oui, il y a en moi bien des choses qui demandent à être guéries, replacées. Mais je sais une chose et j'ai confiance, c'est que le Seigneur est au-dessus des puissances. Lui a vaincu la mort. Lui est victorieux. La seule chose que moi j'ai à faire n'est pas une guerre offensive contre les puissances du mal. La seule chose que j'ai à faire, c'est une guerre défensive. C'est pour ça que dans Éphésiens chapitre 6, il n'y a aucune arme offensive. Et la seule arme offensive, c'est le petit glaive, qui est le glaive de la défense. Le bouclier de la foi. Il n'y a pas marqué l'épée de la foi. Le bouclier. Oui, j'ai un combat à mener contre les puissances. C'est un combat défensif et j'ai un combat à mener, c'est le culte où le Christ est au-dessus de tout ce qui peut régir le monde, quel que soit le lieu où nous nous trouvons. Nous l'avons vu ici, tout pouvoir m'a été donné. C'est quelque chose qui entrave la liberté qu'avaient les autorités et les puissances. Une autorité et une puissance qui est guérie, c'est une autorité qui est soumise à Dieu. Qui ne se prend pas pour Dieu, si vous voulez. Qui ne se prend pas pour Dieu. Il n'existe que des bonnes choses. Si ces bonnes choses se prennent pour Dieu, ce sont des idoles et des mauvaises choses. C'est pour cela qu'il est important que le culte guérisse nous-mêmes, nos vies. Nous continuons, nous voyons ici l'Épître aux Hébreux. Certains, par la foi, ont été victorieux, d'autres ont été sciés, torturés. Ça vous dit quelque chose dans l'Épître aux Hébreux ? Certains, par la foi, parce qu'ils sont des prophètes, des empêcheurs de ces pouvoirs de tourner en rond, qui se prennent pour des absolus, vous saisissez ? Certains ont dit, non, pas avec moi. Ça ne passera pas avec moi. Eh bien, pour cette raison, ils ont été comme des prophètes, ici, parfois, ils ont réussi. Et parfois, ils ont aussi échoué, comme des Martin Luther King, ou des Gandhi, ou d'autres personnes qui étaient des prophètes. Qui sont parfois morts sur leur lit de mort, mais également parfois ont été mis à mort. On pourrait continuer, je ne vais pas seulement parler ici aux historiens, il y a des paysans ici qui sont suspendus par des puissants, il y a ici des gens qui sont morts, dont la biographie de Michel Sattler au début de l'Église libre de 1525 témoigne, et puis on pourrait continuer jusqu'à la présence toute proche de cet homme qui a été exécuté en 1529. Et ce que je trouve admirable, ce n'est pas l'exécution, c'est que cette vie a été donnée pour le Seigneur et le Christ vivant, qui porte lui-même une croix, a un regard direct sur l'actualité. Le Christ a un regard direct sur nos actualités. Je serai avec vous dans vos situations jusqu'à la fin du monde. C'est ceci aussi l'ascension. C'est la présence de son esprit et c'est l'assurance que celui qui règne met tout autre pouvoir, quel que soit le nom que l'on puisse donner, sous ses pieds. Car nous n'avons pas à lutter contre des entités physiques, la chair ou le sang, ou des associations, quelles qu'elles soient, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Est-ce que vous arrivez à comprendre cette dimension spatiale du combat qui est à mener, qui aujourd'hui n'est plus quelque chose qui correspond à nos manières d'expliquer ? Mais le combat de la foi est quelque chose qui est naturel Nous retrouvons ceci dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, et au verset 12. Je termine avec cette image-là. Jésus a dépouillé, détrôné. Ça ne veut pas dire qu'il les a anéantis. Il les a rendus de nouveau à leur juste place. Les autorités, les puissances, ce qui peut régir notre vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui, dans votre vie à vous, rejoint ces principautés où on sait que dans notre faiblesse, le Christ est victorieux sur les puissances de la mort et nous nous inscrivons dans cette spiritualité qui développe une adoration du Jésus au-dessus des pouvoirs. Jésus a dépouillé les dominations et les autorités, Colossiens chapitre 2, verset 15. Je vous ai proposé d'accepter l'idée de l'imitation, il a détrôné les autorités et les pouvoirs et les a livrés publiquement en spectacle. Et c'est là que j'aimerais arriver en ma conclusion. Comment a-t-il vaincu les puissances? Et ce comment est aussi quelque chose qui est important pour nous, corps de Christ. Il les a livrés publiquement en spectacle. Le spectacle, c'était lui dans son corps, la croix, en triomphant d'elle par la croix. Le triomphe par la croix est le plus grand des paradoxes qui puisse exister. Donner sa vie pour aimer, pour confronter le mal dans le respect, est l'arme que le Seigneur nous donne pour être victorieux à notre tour, à la suite de Christ, sur les puissances du mal aussi dans notre vie. Alors la question qui est pour nous en conclusion est la suivante. Quel est le mal que je suis prêt à accepter de nommer dans ma vie ? Pour lequel je puisse dire, Seigneur Jésus, tu es au-dessus de ce mal. Je vous propose que nous ayons 2 minutes de silence maintenant, où dans nos cœurs nous disons, Seigneur, tu es victorieux des puissances du mal. Tu as mis chacune de ces puissances par ton sacrifice unique sur la croix, sous tes pieds. Nous te remercions pour le mode de ta victoire. Nous la célébrons, Seigneur. C'est toi qui as vaincu les puissances. À notre tour, nous voulons maintenant te nommer des mots où on a envie de mettre une majuscule tellement ça a une incidence importante dans nos vies et sur la vie des gens. Nous te les nommons et nous disons, Seigneur, voici le mal qui me mène par le bout du nez. Je te prie de m'affranchir, Seigneur, et de me rendre libre. De me pardonner, de me donner ton esprit, un esprit de victoire. Tu es au-dessus des puissances. Nous le célébrons aujourd'hui et dès à présent, nous voulons te faire confiance afin que ce mal puisse trouver sa juste place. Seigneur, tu as tout pouvoir dans les cieux et sur la terre et nous te remercions, Seigneur, d'être maintenant la tête de ton corps qui est l'Église, dont nous faisons partie. Nous t'adorons, Seigneur. Amen. Merci pour votre attention.